Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Une élection présidentielle boudée par près de 60% des électeurs, un pouvoir à la recherche d'une légitimité renouvelée et depuis des mois des manifestants pacifiques qui par milliers la lui refusent, dénonçant le système qui depuis plus d'un demi-siècle, depuis l'indépendance, tient le pays à sa main et à son seul profit. L'Algérie, ce matin, semble paralysée par ses propres antagonismes. En février dernier, on s'en souvient, la rue rejetait avec colère un cinquième mandat au bénéfice d'Abdelaziz Bouteflika, ce mort-vivant tenu à bout de bras par son clan. Depuis, un autre clan, autour du chef d'état-major, le général Salah, affronte la lame de fond qui soulève la société algérienne et d'abord les jeunes, qui exigent un avenir et du travail. Sur les 5 candidats en lice hier pour cette élection présidentielle rejetée par l'opinion, le vainqueur est un ancien premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. Aussitôt le résultat connu, une marée humaine conspuait son nom dans les rues de la capitale et de plusieurs autres villes. Comment l'Algérie en est-elle arrivée là? Quelle crédibilité a accordé à ce nouveau président dont on sait, quand on sait les pratiques de l'État profond déterminé à conserver son emprise sur l'appareil sécuritaire et sur les ressources pétrolières et gazières, une transition démocratique est-elle possible? Comment éviter surtout le risque d'une confrontation violente avec le mouvement contestataire, bien en peine jusqu'ici d'organiser une solution politique de rechange? Quelles recettes pour sortir l'économie algérienne du marasme? Quels enjeux enfin pour la France, toujours suspecte d'ingérence d'un côté comme de l'autre? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Jean-Pierre Filiu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités, vous enseignez l'histoire à Sciences Po Paris. Khadija Mohsen Finan, ravie de vous recevoir. Vous êtes politologue et chercheuse, enseignante à l'université Paris 1. El Mouhoub Mouhoud, professeur d'économie à l'université Paris Dauphine. Vous y dirigez le master Affaires internationales. Et par téléphone, en direct d'Alger, Messal Metaoui, bonjour, vous êtes journaliste à Radio M, qui est à la fois une radio sur le web et un site d'information. Précisément, Faisal, expliquez-nous quelle est l'ambiance ce matin à Alger, après l'immense manifestation d'hier qui a salué à sa manière l'élection de Monsieur Tebboune.
Oui, bonjour à vous, à vos invités, mais également aux auditeurs. Ce matin, samedi 14 décembre, c'est le calme à Alger, dans les autres villes. Hier, vendredi 13 décembre, il y a eu effectivement des manifestations, pas uniquement à Alger, mais dans les autres villes comme Oran, Béjaïa, Tizi Ouzou, Annaba. La rue refusait le résultat de l'élection et les slogans ont un peu changé, puisque ces dernières semaines, les slogans étaient « non à l'élection présidentielle ». L'élection présidentielle a eu lieu et donc le Hirak, le mouvement de contestation, tente de s'adapter au moment où le nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, dans sa première conférence de presse, a déclaré tendre la main au mouvement de contestation et s'est engagé à ouvrir, comme il a souligné, un dialogue sérieux avec ce mouvement de contestation sans préciser la forme de ce dialogue.
Et est-ce que la presse, ce matin, la presse algérienne, croit à cette main tendue? Enfin, on sait que la presse est quand même assez largement tenue par des groupes proches du pouvoir. Mais quelle est la tonalité?
La tonalité, la presse, vous avez deux courants ce matin. Il y a une presse arabophone, la presse francophone. Vous avez par exemple le Watan qui dit que Tebboune est face au Hirak. Le sous-titre, c'est vainqueur d'une présidentielle très contestée. Liberté évoque Abdelmadjid Tebboune face à l'épreuve. Au moment, par exemple, un journal comme Nahar, qui est proche du pouvoir, déclare un peu, rapporte ce que dit Tebboune, notamment en matière de lutte contre la corruption et également sur le mouvement de contestation, où on voit Tebboune s'engager à constituer un gouvernement de jeunes. Donc la presse est un peu partagée. La Liberté pense que la présidentielle a été massivement rejetée par la rue. Donc on a plusieurs commentaires sur cette nouvelle ère qui s'ouvre en Algérie, c'est ce que fera Tebboune, parce qu'il a une contestation dans la rue et qu'il doit aussi remettre le pays sur rail, comme il a dit, parce que l'économie algérienne est également en difficulté actuellement.
Sur les réseaux sociaux, dont on sait désormais le rôle majeur dans toutes ces contestations dans le monde arabe comme ailleurs, quelle tonalité? Ils sont évidemment plus libres que la presse officielle.
Oui, il y a une presse indépendante en Algérie, pas toute la presse. Il y a effectivement dans les réseaux sociaux, et c'est le débat, et il est là depuis quand même quelques mois déjà, hein, bien avant, parce que en Algérie, on a annulé déjà deux élections présidentielles, c'était en avril et en juillet. À un moment donné, il y avait un rejet massif de l'élection présidentielle, puisque pour la rue et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les contestataires, c'est une reproduction de l'ancien système, puisque Abdelmadjid Tebboune est ministre depuis plus de 20 ans, premier ministre en 2017, etc. Et il y a une autre partie, parce qu'à un moment donné, on a commencé à attaquer le mouvement de contestation, en évoquant notamment l'ingérence étrangère, en évoquant la dernière déclaration du Parlement européen, qui a été fortement critiquée par le pouvoir en Algérie. Il y a certains qui ont soutenu l'élection, en disant que c'est une solution qu'on n'a pas à recevoir des leçons de l'extérieur. D'ailleurs, hier, Abdelmadjid Tebboune a attaqué directement le président français, Emmanuel Macron, lorsqu'une question lui a été posée sur ses déclarations à Bruxelles sur l'élection, où le président français a parlé et a dit qu'il a pris note de l'élection algérienne. Tebboune a dit que je ne réponds pas au président français, je ne reconnais que le peuple algérien. Donc ça donne un peu la tonalité de ce que sera probablement les relations futures avec la France.
Merci Faisal Metaoui de nous avoir donné ainsi le pouls d'Alger ce matin, au lendemain donc de ce scrutin présidentiel. Jean-Pierre Filiu, on voit quand même ce scrutin présidentiel. Certes, le taux d'abstention a battu tous les records, même celui, je crois, du quatrième tour du président Bouteflika. Néanmoins, Monsieur Tebboune a été élu au premier tour, et donc ça démontre la capacité du système au pouvoir à se renouveler et à présenter, à répéter en quelque sorte les scénarios qu'il préconise, quelles que soient les circonstances.
Oui, je crois que le terme de répéter est plus approprié que renouveler. On est dans un jeu de bonneteau, hein, on est dans un jeu de bonneteau où on a changé différentes figures. Et l'élection au premier tour, c'est parce que le régime avait très peur d'oser organiser une deuxième fois un scrutin qui représentait un grand défi sécuritaire à l'échelle du pays. Donc les chiffres officiels, hein, les chiffres officiels, c'est 60% d'abstention et c'est Tebboune élu par un électeur sur 6. On sait que ces chiffres ont historiquement toujours été gonflés. Donc ça en dit long sur la réalité de l'absence de base populaire de Tebboune. Mais surtout, ça ne répond pas à la question que pose avec constance le peuple algérien depuis le 22 février, depuis le début du Hirak, le mouvement de contestation. C'est va-t-on vers autre chose? Va-t-on enfin vers une transition démocratique? Rien de ce qui a été dit et fait ne correspond à cela, parce que rien n'a été dit et fait par le seul et vrai maître du pays, le chef d'état-major, Ahmed Gaït Salah, qui campe sur ses positions et qui espère qu'avec Tebboune, il aura non plus un mort-vivant, comme vous le disiez, s'agissant de Bouteflika, mais un homme de paille à la présidence et qui pourra continuer à diriger le pays comme si de rien n'était. Et ça, c'est très inquiétant. Et aujourd'hui, s'il doit y avoir un geste d'ouverture, il doit venir du chef d'état-major. C'est lui qui bloque depuis déjà de trois mois toute sortie de crise. C'est lui qui doit donner, en termes de libération inconditionnelle des détenus d'opinion, en termes de garantie des libertés fondamentales, le signe qu'enfin on est prêt à passer à autre chose. Pour l'heure, je crois que le terme de nouvelle ère qui a été employé par notre ami à Alger n'est pas non plus approprié. Ça n'est juste qu'un nouvel épisode dans la longue crise du régime qui a été ouverte par la détermination formidable de millions d'Algériennes et d'Algériens.
Donc la main tendue offerte par le président élu, selon vous, c'est une poursuite de ce jeu que le même pouvoir, le même système en tout cas, quelles qu'aient été ses incarnations successives, maintient depuis l'indépendance, depuis 1962.
Oui, enfin, ce sont des manœuvres. Là, en l'espèce, main tendue, c'est très simple. Qu'on libère les détenus d'opinion, qu'on libère toutes les personnes, et elles sont à peu près 150, qui ont été incarcérées, parfois condamnées à de la prison ferme, tout simplement parce qu'elles avaient exprimé pacifiquement dans la rue ou sur les réseaux sociaux leur opinion. Sinon, ça ne signifie rien. Et on voit bien que on a toujours des restrictions très dures sur les différentes libertés fondamentales et qu'il faut qu'elles soient levées et levées de manière spectaculaire, de manière définitive, pour que s'ouvre enfin un espace où cette main tendue pourrait être reprise. Mais j'insiste, hein, la main tendue, on l'attend pas de Tebboune, on l'attend du chef d'état-major, parce que c'est lui le maître du pays. On ne veut pas qu'il ait un nouvel artifice, un nouveau masque, une nouvelle mascarade. Ça fait 10 mois qu'il a montré que c'était lui qui avait choisi le jour de cette élection. À l'évidence, c'est lui qui a choisi le nouveau président. Eh bien, qu'il montre qu'il est enfin déterminé à ouvrir la négociation qui s'impose.
Khadija Mohsen Finan, vous vous intéressez particulièrement à ce mouvement, donc Hirak en arabe, un mouvement qui depuis près de 10 mois fait montre d'une extraordinaire discipline, puisqu'il reste pacifique. On voyait en particulier hier le nombre de policiers qui contenaient la foule manifestant en grand nombre à Alger, et pas seulement à Alger d'ailleurs. Comment expliquez-vous cette maîtrise de la foule alors qu'on ne voit apparaître aucune organisation de ce mouvement ?
Absolument, c'est un mouvement spontané, mais un mouvement qui donne des signes de grande maturité politique. Et je pense que les Algériens ont d'abord tiré les leçons des années 90 et ils ont compris que quand il y a violence, elle profite toujours au régime en place et en particulier dans le cas de l'Algérie où l'armée est très puissante.
Les années 90, il faut le rappeler, c'est
des
donc
années de guerre civile.
La décennie noire, une guerre civile atroce.
Guerre civile qui a fait plus de 150 000 morts, peut-être même 200 000 morts. Et ils ont compris que l'armée était extrêmement puissante et que ils ne pourraient pas affronter cette armée. Ils ont aussi tiré les leçons de ce qu'ils ont observé ailleurs. Et notamment en Syrie, ils ont vu que Bachar al-Assad a poussé sa population à la violence pour mieux écraser le soulèvement. Donc je pense que cette maturité, elle est là, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a un plan. Il y a une manière très raisonnée et très méthodique de refuser l'offre qui leur est faite par le général Gaid Salah, parce que c'est une offre verticale. C'est quelque chose qui vient d'en haut et il dit qu'il ne peut pas aller plus loin. Donc, il a sacrifié le clan des Bouteflika et il a fait mine d'ouvrir le dossier de la corruption pour lutter contre la corruption. Il a jeté en pâture certaines figures et pour l'heure, il va relayer ce président qui a été intronisé par l'armée, la tâche très délicate de prendre langue avec la rue finalement. On ne sait pas
si c'est la rue, les Algériens ou la rue. Quelle rue ? Parce qu'encore une fois, dès qu'une tête émerge, elle est emprisonnée. Je veux dire, et on a l'impression qu'il y a une organisation horizontale en quelque sorte au sein du mouvement, mais on ne voit pas, encore une fois, la poignée d'hommes et de femmes d'ailleurs, parce que le rôle des femmes dans ce mouvement est tout à fait singulier et nouveau en Algérie.
Alors il y a eu ce qu'on appellerait des leaders comme Karim Tabou qui sont emprisonnés. Il y en a d'autres qui sont restés très discrets précisément parce que pour ne pas aller en prison ou pour être un peu des sortes de réservistes. Ils existent, mais il est très difficile d'avoir des têtes qui émergent parce que comme les autres soulèvements, le mouvement est vraiment mouvement très hétéroclite, c'est-à-dire qu'ils veulent le changement, mais ils ne veulent pas tous la même chose. Ils savent en ce moment ce qui les unit, c'est qu'ils n'ont pas la même définition du changement que le pouvoir, que les militaires. Mais d'un autre côté, rien n'est réellement défini, parce qu'ils ne sont pas dans le même timing. Eux, ils disent qu'ils s'en aillent d'abord et on verra ensuite. Alors que le pouvoir est dans une autre logique. Voyons les choses maintenant et sur le court terme pour mieux perdurer, précisément.
Un mot, ou même plusieurs d'ailleurs, sur le rôle des femmes.
Oui.
On voit ça aussi au Liban en ce moment, c'est-à-dire des manifestations de rue, c'est tout à fait nouveau, où les femmes côtoient les hommes, elles osent le faire, et pas seulement les jeunes, aussi des femmes voilées. Enfin, on a l'impression d'une mixité sociale et générationnelle nouvelle où les femmes affirment un rôle qu'elles n'assumaient pas ouvertement jusqu'ici.
Non, ça je crois que c'est depuis 2011 et dans le monde arabe, on ne s'étonne pas de cela. Tout le monde veut le changement et tout le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Mais ça fait déjà plusieurs décennies que les hommes et les femmes se côtoient avec ou s'envoient, etc. Donc dans ce soulèvement, il y a autant de femmes que d'hommes, mais le rôle des femmes est quand même très important parce qu'elles éduquent les enfants, elles discutent beaucoup avec leurs voisins, elles socialisent beaucoup plus que les hommes qui parlent peut-être plus entre eux. Mais je dois dire que cette place des femmes, elle étonne beaucoup en France et elle est mentionnée beaucoup plus en France qu'ailleurs.
El Mouhoub Mouhoud, il y a quoi ? Il y a quelques 42 millions d'Algériens. 70%, je crois, ont moins de 35 ans. C'est donc une société bouillonnante et qui ne trouve pas d'autre exutoire que d'essayer de traverser la Méditerranée, d'après les témoignages que l'on peut lire ou entendre ici ou là. Je crois que vous étiez à Alger il y a une quinzaine de jours parce que vous y enseignez régulièrement. Qu'est-ce qui vous a frappé du côté de vos étudiants, par exemple?
Ce qui est frappant, c'est l'élévation extraordinaire du niveau de réflexion politique. Je n'ai jamais vu ça, moi qui ai grandi en France, même en France d'une certaine manière. Ça ressemble à ce que décrivait John Reed dans Les 10 jours qui ébranlèrent le monde, c'est-à-dire une élévation de l'intelligence collective qui était inédite en Algérie. Mais parce que précisément, il ne s'agit pas pour moi d'un mouvement spontané. Il s'agit d'un mouvement qui est le résultat diachronique d'un processus successif dont la mémoire est imprégnée dans chaque Algérien. Depuis le printemps berbère de 1980, où le régime a été ébranlé pour la première fois, en passant par les émeutes de 88-91, jusque, et en dépit de la crise et de la guerre civile des années 90, jusque au printemps noir de 2001, où les Kabyles en particulier, puisque c'est eux qui ont été frappés les premiers, ont crié ou l'Ashmah, pas de pardon, jusqu'enfin aux mouvements qui ont été complètement exprimé dans les stades et également en 2011, parce que en 2011 aussi il y a eu un processus qui a commencé à voir naître, et puis enfin à l'arrivée du Hirak, c'est-à-dire du mouvement du 22 février. Et j'ai trouvé que les gens discutaient de manière extraordinairement ouverte à l'intérieur et organisée, c'est-à-dire qu'en fait c'est un écueil que de considérer que ce mouvement est désorganisé. C'est la première arme stratégique du pouvoir et en particulier du régime militaire, que de faire apparaître ce mouvement comme désorganisé et comme décentralisé et comme n'ayant personne avec qui discuter. En réalité, la discussion n'existe pas parce qu'elle ne vient pas volontairement, de manière unilatérale, du régime militaire. Et c'est bien cela. Et quand vous discutez avec les gens qui animent les organisations, vous trouvez qu'ils sont tous en liaison dans des plateformes démocratiques, en relation. Le seul élément qui est difficile à régler, c'est la liaison avec les partis d'opposition traditionnels qui sont un peu à côté du Hirak. Mais le mouvement lui-même, il n'est pas spontané, il est organisé, il est organisé comme on rêverait presque les révolutionnaires d'autrefois, c'est-à-dire quartier par quartier. Et c'est ça qui fait sa force remarquable, c'est qu'il est solide et il n'a été érodé par rien, y compris par les menaces physiques, les arrestations, mais pas seulement, mais aussi idéologiquement, le fait d'avoir exprimé à un moment donné la menace islamiste, l'hypothèque islamiste a été levée, l'hypothèque de la violence a été levée, la sécurité a été levée. Donc, il s'agit vraiment pour moi, et ça, c'est, et les étudiants que j'ai pu avec qui j'ai pu discuter, qui relèvent d'un peu de tous les milieux, étaient vraiment absolument. Il y avait des libéraux, des. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a, au contraire, une homogénéité dans les mots d'ordre qui est remarquable quand vous les comparez avec les autres mouvements dans les autres pays, que ce soit au Chili ou ailleurs. Et il n'y a pas de revendication économique. Il n'y a qu'une seule revendication homogène, c'est celui de Daoula Madaniya Machia Askaria, un État civil et pas militaire, une nouvelle république démocratique, une nouvelle transition économique et politique. Parce que sinon, on restera dans le même système. Et je crois que vous, tout à l'heure, on parlait de répétition. Moi, je dirais réplication. C'est-à-dire qu'on est en train de répliquer. C'est à peu près la même chose. Il y a une petite nuance au sens où il y a une pseudo à l'égard du reste du monde, une pseudo ouverture, une pseudo main tendue, alors que le clan ne fait que se recomposer sur de nouvelles bases, des bases avec les mêmes figures ou des figures anciennes, mais dans la poursuite business as usual. Et du point de vue de ce que vous me disiez juste au début, il ne sortira rien de structurel pour réformer les tares et les ingrédients de ce système qui ont poussé à ces révoltes successives, donc diachroniques dans le temps, mais aussi synchroniques avec les autres mouvements de la région.
Néanmoins, vous faisiez allusion aux 10 jours qui ébranlèrent le monde. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître, justement, dans la Russie de l'époque, des dirigeants, et des dirigeants autoritaires, qui ont canalisé à leur tour, et très rapidement d'ailleurs, cet élan collectif. Donc, encore une fois, il faut quand même, pour amorcer cette transition que manifestement autour de cette table, tous les trois vous espérez, comme l'espérait d'ailleurs notre ami Faisal Metaoui à Alger, il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait des interlocuteurs qui incarnent le mouvement, Jean-Pierre Filliu.
Mais les interlocuteurs sont là, mais ils sont uniquement d'un côté. Il faut que Gaïd Salah, chef d'état-major, décide qu'il est prêt à entrer enfin dans un processus de négociation. Et les interlocuteurs se constitueront en direction forcément collégiale pour à ce moment-là rentrer dans un processus structuré et structurant. Jusqu'à présent, Gaïd Salah ne veut rien d'autre que la restauration du statu quo. Et si j'ai intitulé mon essai « La nouvelle indépendance ».
La nouvelle indépendance, donc un titre d'autant plus approprié que c'est évidemment le mot d'ordre de ce mouvement.
Voilà.
Et il est très intéressant vu de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que ça veut dire quoi? Que l'indépendance de 62, elle a été kidnappée par l'armée, et en l'occurrence l'armée des frontières et non pas les mouvements intérieurs.
Voilà, donc c'est à la fois ce fait que ce slogan pour la nouvelle indépendance, il a encore retenti ces derniers jours avec force dans tous les cortèges, mais c'est qu'il faut comprendre que on est dans quelque chose qui engage les profondeurs mêmes de la société algérienne, qui considère, ça a été dit tout au long du Rielak, que 1962 c'était l'indépendance du territoire et qu'aujourd'hui ce qu'ils exigent c'est l'indépendance du peuple. Donc tant que la clique au pouvoir, ce qu'on appelle les décideurs, c'est-à-dire le chef d'état-major et quelques autres généraux, n'ont pas décidé d'aller dans la voie de cette indépendance, et on peut faire toute une série de parallèles avec la lutte anticoloniale, tant qu'il n'y a pas de reconnaissance du droit à l'autodétermination, qui est au cœur de tout processus d'indépendance, eh ben on n'ira nulle part. C'est le régime qui est complètement responsable du blocage et qui veut perpétuer l'absence d'indépendance, le déni de souveraineté du peuple algérien. Et on voit comment la mobilisation du Rielak, elle vise en fait à reconstituer aussi un peuple algérien dans la rue, dans ses différences, dans sa pluralité. Ce qui m'a beaucoup frappé lors de ma tournée à l'été dernier en Algérie, c'était l'acceptation qui était assez rafraîchissante en Algérie d'une identité plurielle. C'était moi, le français, qui disait Algérie, pays arabe, et on me disait, ah non, pays arabe, mais aussi pays berbère, mais aussi pays africain, mais aussi pays méditerranéen, et toutes ces pluralités d'identité se déclinaient sur d'autres plans. Et on voit au contraire le régime qui essaie de monter les uns contre les autres, qui en interdisant le port de l'emblème amazigh veut pousser les...
L'emblème amazigh, c'est l'emblème berbère.
Donc. Voilà, il veut pousser Kabyle. les Kabyles contre les autres, qui en montrant du doigt les binationaux, les franco-algériens.
Il y en a quelques 2 millions en France, je crois.
Oui, mais on voit comment il les stigmatise, hein, les fils de France. Il y a eu des propos abjects qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur avant la présidentielle, qualifiant les opposants, tous autant qu'ils sont, de pervers, de traîtres, de mercenaires et d'homosexuels. Je cite le ministre de l'Intérieur qui, le lendemain, devant le Sénat, a confirmé la teneur de ses propos en considérant qu'il s'adressait aux agents de la France et aux enfants de la France. Donc on est quand même face à un système qui est épouvantablement crispé, bloqué, et dont la tentation de la violence a pour l'instant, avec une grande maturité, été neutralisée par le Hirak, par sa discipline non violente, qui n'a laissé aucune prise, malgré toutes les provocations, tous les pièges qui ont été tendus à cette mobilisation collective.
Ce système, on le décrit volontiers comme l'État profond, c'est-à-dire à la fois les services de renseignement et l'armée et une oligarchie financière, économique. Cet État profond, selon vous, c'est toujours la bonne manière de décrire le système qui reste au pouvoir.
La grande victoire avec l'imposition de la non-violence, de la dynamique de la non-violence, des mots d'ordre de la non-violence, la grande victoire du Hirak, c'est que l'État profond ne l'est plus. L'État profond, il s'affiche. Il s'affiche dans toute son obscénité, dans toute son incapacité, et excusez-moi du terme, dans toute sa nullité.
Il
s'incarne en la personne du général Ahmed Gaït Salah.
Mais c'était déjà le cas avant, le patron des services.
Mais qui jamais n'aurait dit un mot quand au patron des services, pendant 25 ans, Toufik Médiane, on le surnommait Rab Jazahir, le seigneur de l'Algérie, parce qu'on ne connaissait même pas son visage. Donc là, on a au contraire un général un peu ventripotent, qui au moins une fois par semaine prononce des discours d'état-major dans des enceintes militaires qui sont censées fournir la feuille de route pour un pays de 42 millions de femmes et d'hommes. Ce à quoi les manifestants répondent, on ne gouverne pas un pays comme une caserne. Ce à quoi ils répondent, nous voulons un état civil, pas un état militaire. Donc aujourd'hui, on voit bien que s'exposer pendant aussi longtemps, pendant 10 mois, et pour arriver à quoi ? À une présidentielle vidée de sens. Ça a été extrêmement éprouvant pour Gaït Salah et les décideurs qui l'entourent. Et donc, il voudrait retrouver le confort de cette façade civile. Il voudrait pouvoir de nouveau avoir un homme de paille. Mais c'est fini. Et c'est fini de leur faute. Il faut bien voir que la crise est complètement de leur fait. Que le 22 février dernier, ils auraient pu mettre en avant un Tebboune, un Ouyahia, un que sais-je, mais qu'ils ont
préféré... C'est-à-dire au moment où ils ont imposé, en quelque sorte, le vieux président Bouteflika, manifestement hors d'état.
Voilà. Donc ils sont tellement indécent, tellement méprisant à l'égard de leurs compatriotes qui se sont dit bon bah mort vivant ça leur suffira. Donc et ce sont eux qui ont donc par cette provocation provoqué la crise. Ce sont eux qui ont balayé toutes les propositions de l'opposition dans les mois qui ont suivi. Ce sont eux qui ont imposé les conditions irrecevables pour la contestation du scrutin du 12 décembre. Donc, ce sont eux qui doivent faire un geste. Et tant que ce geste n'a pas été fait, ce n'est pas un prête-nom ou je ne sais quel locataire du palais présidentiel qui pourra le faire à leur place. Et à ce moment-là, leur Chirac, évidemment, saisira cette main qui sera enfin tendue.
Hamda Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, qui est le partenaire de cette émission. Expliquez-nous néanmoins, qui est donc ce nouveau président élu hier au premier tour, Abdelmadjid Tebboune. Qui est-ce ?
Alors Abdelmadjid Tebboune, vous l'avez rappelé, hein, il est âgé de 74 ans et c'est un routier de la politique algérienne, on l'a dit, le quotidien algérien Liberté le note aussi. Le président élu était vraiment le candidat du système, nous dit le journal, et il a eu, comme les autres candidats, une campagne difficile rythmée par un rejet massif du peuple. Ça c'est El Watan qui le souligne. Alors même si les cinq candidats faisaient tous partie de cet establishment, il est le plus proche de l'homme fort du pays, vous le rappeliez, Gaïd Salah, dirigeant du pays de facto depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Tebboune était d'ailleurs proche aussi de Bouteflika. Il a été 7 fois son ministre et même son premier ministre, moins de 3 mois en 2017. Il avait été alors limogé par le frère du président, Saïd, qui n'approuvait pas ses attaques contre les nouveaux oligarques du pays. Même si à l'époque Tebboune avait affiché une volonté de lutter contre l'argent sale, il est déjà rattrapé par les affaires qui concernent ses proches, notamment son fils, qui est accusé de blanchiment d'argent et de trafic d'influence dans une affaire de saisie de cocaïne, ce qui vaut déjà à son père, dans les manifestations, le surnom de président cocaïne, et également un homme d'affaires proche de son entourage qui est accusé de corruption. Liberté, le journal Liberté, note que c'est le premier président de l'Algérie à ne pas être issu des rangs des anciens combattants de la guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial français et qu'il est également connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, notamment contre la France, on le rappelait tout à l'heure.
Le chef d'état-major, Gaïd Salah, a eu droit de la part de Jean-Pierre Filu un portrait poivré. Quel a été son parcours ?
Alors, on sait que c'est lui, rappelle El Watan, qui avait lâché le président, entre guillemets, lâché le président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, lorsqu'il avait appelé à l'application immédiate de l'article 102 de la Constitution qui destitue le président pour des raisons médicales. Pourtant, rappelle El Watan, Gaïd Salah était un membre du premier cercle du chef de l'État depuis 2004, lorsque Bouteflika l'avait nommé chef d'état-major, bien qu'à l'époque, il était proche de la retraite. Puis il a fait de lui, en 2013, son vice-ministre de la Défense. Sa carrière militaire, elle avait commencé à l'âge de 17 ans dans les rangs de l'armée de libération nationale qui combat alors l'armée coloniale française. Puis en 62, à l'indépendance, Gaïd Salah intègre l'armée et gravit peu à peu les échelons après être passé par une académie militaire soviétique. C'est l'homme de confiance du président pendant près de 15 ans. Il était donc réticent à lâcher le président, mais il a pris cette décision. Il finit par lui donner lui-même le coup de grâce. Et depuis, alors qu'il n'est officiellement, vous le rappelez, que vice-ministre de la Défense, il dirige largement le pays à la place du président par intérim assez effacé, Abdelkader Ben Salah.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
El Mouhoud, vous faisiez allusion tout à l'heure à vos étudiants qui n'ont pas de revendications économiques. D'ailleurs, on ne voit pas de slogan de ce genre dans les manifestations. Néanmoins, l'économie algérienne est quasiment moribonde malgré ses richesses pétrolières et gazières.
Alors, ça permet aussi de déjouer un deuxième piège que le pouvoir a tenté de dresser. Ce piège, c'est de dire que la détérioration de la situation économique algérienne serait due à une transition trop longue. Et donc, on a eu ce que j'appelle une dichotomie fallacieuse qui consisterait à séparer une transition longue qui serait celle de la population que réclame le Hirak, d'une transition courte qui serait justement l'agenda fixé par Gaït Zarah et l'armée qui a abouti au 12 décembre.
Et avec plusieurs lois concernant le pétrole, concernant les investissements.
Tout à fait. Et en réalité, quand on fait le bilan de cette dichotomie, en réalité, on voit que le pouvoir économique et politique qui a été mis en place après le 22 février, après la destitution de Abdelaziz Bouteflika, et souffre de trois maux. Illégitimité, bien sûr, qui est le mal extraordinaire, mais aussi inefficacité et pilotage à vue. Et donc, dans tout ce qui a été proposé jusqu'à présent, aucune mesure a été pensée dans une vision quelconque. C'est du pilotage à vue, du bricolage. On réforme la loi 49-51 pour la détention de la propriété du capital lorsqu'il y a des investissements directs étrangers. On fait une loi sur les hydrocarbures qui est ancienne et qui est pourtant pas mauvaise, mais qui est absolument rejetée par la population.
Et une loi qui permettrait quoi parce que les hydrocarbures, c'est ce qui assure évidemment la richesse de l'élite algérienne.
C'est toujours un tiers du PIB, c'est toujours la majorité, l'extrême majorité des ressources extérieures, 98% des recettes extérieures, même si c'est un peu baissé parce que les prix du pétrole lui-même a baissé.
Et ça va vers qui, ces ressources-là?
Alors, ces ressources hydrocarbures, en fait, pour revenir à l'évaluation de la rente des hydrocarbures, cette rente était de 60 milliards en 2007, elle est plus que de 30 milliards aujourd'hui, donc elle a fondu.
Parce que le prix du pétrole a baissé.
Dans la répartition, le prix du pétrole a baissé entre 2014 et 2016. Les réserves de change, c'est-à-dire les recettes, si vous voulez, d'exportation qui permettent d'avoir des devises et de faire face aux importations et aussi à l'endettement éventuel, eh bien, ces réserves de change sont passées de 200 milliards à 60 milliards. Donc, la situation s'est dégradée. Mais sur cette rente pétrolière et gazière, il faut bien savoir que le tiers va au budget de l'armée. Donc, si vous voulez, non seulement la rente a fondu, mais le fonds de recettes d'hydrocarbures qui était censé jouer un rôle un peu de caisse de sécurité en cas de baisse du prix du pétrole, en fait, a été dépensé massivement en période de vache grasse et pas du tout dans les périodes. Il reste plus rien dedans pour assurer les déficits. Il y a un déficit public qui est à peu près budgétaire, qui est de 7% du PIB, un déficit commercial, donc il y a un double déficit jumeau. Toute cette situation s'est dégradée. C'est le même gouvernement de Bouteflika, Ahmedou Yahya, qui maintenant est en prison, qui a créé le financement non conventionnel, c'est-à-dire la blanche à billets, de l'ordre de 40% du PIB, qui a créé une situation qui a renforcé encore plus le secteur informel. Donc l'économie, les tares de cette économie, qui est une économie concentrée sur les hydrocarbures, deuxième secteur, les importations, qui représentent un tiers du PIB, puis troisième secteur, le secteur des biens non échangeables, du type services aux ménages, transport, etc. L'industrie ne faisant plus que 4% du PIB, du PIB, des richesses créées, et 10% de l'emploi total. Et donc on a la population qui est le taux de participation de la force de travail qui est de 40%, l'un des plus bas du monde, je le répète, et donc ces ingrédients-là n'ont pas bougé d'un iota, se sont aggravés encore plus, de sorte que ça pose véritablement la question de savoir quelle est la marge de manœuvre pour sortir de là? Bien, la marge de manœuvre pour sortir de là, elle est double. D'abord, l'Algérie n'est pas le Venezuela, n'est pas le Soudan, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une situation de collapse encore. C'est-à-dire qu'il y a encore deux années de marge de manœuvre existante. C'est là où la question politique est fondamentale. Et c'est l'économiste qui parle de la question politique, en tant qu'économie politique du pays, que je connais assez bien. Vous ne pouvez pas sortir de cette incurie, de cette incompétence généralisée, si la population ne participe pas au processus de renouvellement, justement, de renouvellement du pacte social. Et pour y participer, il faut que la transition politique soit, non pas un préalable à la transition économique, mais soit présente dans un agenda qui permet de donner, comme ça s'est fait au Soudan d'ailleurs, un axe et une vision qui permet de dire, voilà, le Hirak réclame une nouvelle constitution, le Hirak réclame une sortie de là, commençons les négociations, ça va pas venir tout de suite, prenons le temps de cette transition, et en attendant, avec le Hirak, mettons en place un gouvernement technocratique capable de résoudre les problèmes auxquels on fait face aux Algériens. Parce que je termine juste sur un point, car aujourd'hui, en effet, l'homogénéité du mouvement Hirak tient à sa revendication strictement politique au sens de la Révolution française, presque. Si vous voulez changer de constitution, changer de république, et donc... qu'ils partent tous, c'est ça que ça veut dire, c'est pas seulement les individus.
Enfin, ils en ont rien à faire. Oui, c'est le rejet total du système.
C'est vraiment le rejet de ce système. Ils savent parfaitement qu'il y a un piège. Mais si on veut sortir de ce système-là, il faut que, à ce moment-là, il y ait un agenda. Et le risque, c'est de passer de ces revendications strictement politiques à des revendications qui vont devenir de plus en plus économiques parce que le pouvoir actuel est incapable de gérer, et je crois que la réplication, quand je parle de réplication, c'est bien parce que on va avoir le même processus, est incapable de répondre aux demandes de la population. Pour l'instant, il y a des filets de sécurité, des subventions tous azimuts, etc., qui permettent de tenir, mais ça se détériore. Et donc bientôt, je fais le scénario que les revendications économiques vont prendre le pas sur les revendications politiques très bientôt. Vous allez avoir des grèves, etc. Parce que précisément, la perte de temps provient du pouvoir. La procrastination a toujours été l'élément clé de ce pouvoir, avec justement en 2017, Ouyahia, qui a reporté à plus tard les réformes pour assurer la réélection du cinquième mandat de manière totalement autiste. Voilà.
Khadija Mohsen Finan, on a vu le pouvoir au cours des derniers mois entreprendre une vaste opération d'épuration. La moitié du patronat algérien, semble-t-il, est en prison. 48 heures avant le scrutin d'hier, deux anciens premiers ministres étaient condamnés à de très lourdes peines de prison, hein, je crois, 12 et 15 ans. Voilà qui devrait satisfaire les revendications du mouvement, le rejet de la corruption, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un règlement de compte d'un clan par rapport à un autre?
D'abord, il y a ça, et je crois que les Algériens connaissent très bien le fonctionnement de ce système. Ils ne peuvent pas se satisfaire de ces offres. Ça participe justement de ce jeu et de cette mise en scène de l'armée. Ils demandent beaucoup plus que ça, et non pas le sacrifice de certains pôles, que ce soit le pôle financier, les oligarques, les amis de Saïd Bouteflika, ou que ce soit aussi d'anciens premiers ministres. Je crois qu'ils veulent un changement en profondeur, effectivement. Ils veulent changer la constitution. Alors, leurs demandes, elles sont plus politiques qu'économiques, et ça, c'est observable dans toutes les transitions. On s'attache d'abord au changement politique, et on ne songe pas à la demande économique qui viendra dans le lot. Moi, je ne pense pas que Gaït Salah va s'attacher à négocier avec la population sur quoi que ce soit. On parle de logiciel, il est ainsi fait, il ne changera pas. Je pense qu'il veut faire ça au nouveau président, mais est-ce que le nouveau président va y arriver? Effectivement, le temps est compté.
Le nouveau président Tebboune avait donné quelques gages quand il était, pendant 3 mois seulement, Premier ministre. Il avait tenté d'incarner cette lutte contre la corruption.
Oui, il a bien vu qu'il y avait des limites et qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ça.
Oui, donc, mais parce qu'il avait été viré par le frère Bouteflika.
Je pense qu'il a été choisi aussi pour cela, pour dire, voilà, ce monsieur est un monsieur du sérail, mais c'est un ancien Premier ministre, mais il s'est cassé les dents justement dans sa volonté de mener une opération main propre et de s'attaquer justement à la corruption.
Donc alors, on peut lui accorder quelques crédibilités.
C'est aux Algériens d'accorder le crédit nécessaire. Moi, je pense que ça participe d'un tout. Ça participe d'un tout, et ça fait partie du plan de l'armée que de nommer Abdelmajid Tebboune. Et je pense néanmoins que les arrestations, elles pourraient maintenant diminuer. On peut ne plus envoyer des gens en prison, puisque
on peut en libérer.
Il faudrait qu'ils en libèrent. Ce serait le premier signe de changement et la première main tendue au Hirak.
Jean-Pierre Filu, où sont passés les islamistes algériens? On a vu dans ce scrutin d'hier que le deuxième score, beaucoup plus faible que celui de M. Tebboune, a été celui du candidat islamiste Bengrina, 17,3%. Dans votre livre qui s'intitule donc la nouvelle indépendance, vous avez un chapitre, les barbus en embuscade. Ils sont donc en embuscade.
Oui, ils sont en embuscade. Hein, ce qui est... Mais en embuscade, ça veut bien dire qu'ils contrôlent pas le terrain, qu'ils sont marginalisés. Alors, ils sont marginalisés pour différentes raisons. D'abord, parce qu'ils sont très divisés. Entre l'islamiste en costume cravate qui effectivement arrive en deuxième place mais qui est complètement un islamiste de sa majesté, un islamiste militaro-compatible et les salafistes et la branche locale des frères musulmans et les différentes tendances de la famille islamiste, on a un paysage tout à fait éclaté qui peut aller d'une collaboration extrêmement active avec le régime en place jusqu'à sa contestation. Donc on n'est absolument pas dans le contexte du début des années 90, avant la décennie noire, où le Front islamique du salut, aujourd'hui dissous, le FIS, incarnait une forme d'alternative.
Les islamistes qui ont été ensuite cooptés par le pouvoir, en quelque sorte, ce qui les a en partie discrédités. Néanmoins, il doit y avoir, je crois, des élections législatives après la présidentielle. Oui, est-ce que les islamistes peuvent conquérir des sièges en nombre au Parlement ?
Alors, d'ores et déjà, le président de l'Assemblée nationale est un islamiste modéré. Enfin, on appelle ça... comme cela, il faut voir que c'est vraiment aujourd'hui une appellation à assez fourre-tout. Ce qui est fondamental, et là, du point de vue des sciences sociales, il n'y a absolument aucun doute. On a eu 43 vendredis, avec des millions de femmes et d'hommes dans la rue depuis le 22 février. À aucun moment, les islamistes n'ont réussi à récupérer tout ou partie d'un cortège, y compris dans des villes... peu peuplé. Donc cela veut dire
notamment au sud.
Oui, ça veut dire que ce mouvement, il ne le contrôle pas. Hein, ils peuvent en être une composante pour ceux qui sont dans une opposition résolue au régime. Ils peuvent y être hostiles pour ceux qui sont dans une collaboration active avec le régime. Mais aujourd'hui, et on en revient toujours, c'est une crise de régime. Donc ceux qui pourraient remettre en selle les islamistes, ben c'est toujours les mêmes. C'est la bande de généraux qui tient le pays et qui pourrait décider que ben, si finalement... ce mouvement reste non violent, ce mouvement ne dérape pas, on n'arrive pas à en faire un épouvantail. Bon, ben, les barbus, ça pourrait devenir un épouvantail utile. Il faut quand même se rappeler que un salafiste qui a tout à fait pignon sur rue, il y a quelque temps, avait lancé des menaces de mort contre l'écrivain Kamel Daoud. Le verdict qui a été prononcé contre lui n'a jamais été exécuté pour des problèmes de compétences territoriales parce que les menaces ont été proférées sur Internet. C'est de la complaisance quand même avec un très grand C. Donc, ce coup de main que pourraient leur donner des adeptes de la politique du pire au sommet du régime, je les vois mal occuper une place déterminante dans l'équation algérienne. Ils sont là, c'est un courant non négligeable, il faut absolument pas les mettre de côté, mais nulle part en 43 vendredis, ils n'ont réussi à prendre le contrôle sur une manifestation.
El Mouhoub Mouhoud, que sait-on des investissements étrangers ou plus précisément la façon dont les pays arabes, à commencer par les pétromonarchies, considèrent le cas algérien? C'est un pays central en Afrique et dans le monde arabe. On sait que l'armée algérienne a été, en tout cas la génération du chef d'état-major formé en Union soviétique à l'époque. On sait que l'Algérie est, je crois, l'un des très très gros acheteurs d'armes russes. Comment décririez-vous le Lego géopolitique autour du cas algérien?
D'abord, juste une incidente sur la question des islamistes, pardon, oui. Mais un sondage, juste un sondage, parce qu'il y a maintenant des sociétés de sondage, il y a des enquêtes aussi que le pouvoir n'a pas regardées, mais deux tiers des Algériens se sont exprimés sur la question de savoir s'ils voulaient la séparation de la religion et de l'État. Et deux tiers des Algériens ont répondu qu'ils étaient pour la séparation. C'est-à-dire que la sociologie algérienne s'est modifiée, même si je suis d'accord pour dire que les islamistes sont toujours là, ils ont leur place, ils ont muté, ils ont connu une mutation, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant, mais je pense que l'hypothèque, justement, et c'est ça qui a fait que les diplomaties internationales se sont tues pendant tout le début et ont donné une sorte de
quitus. Y compris le Qatar ou l'Arabie Saoudite finançant...
Ça existe toujours. Cela dit, il y a quand même toute
la grande mosquée d'Alger, elle est financée par qui ?
Elle est financée par la rente pétrolière algérienne. Elle est financée par la rente pétrolière algérienne, par les financements non conventionnels. Le fonds de recettes des hydrocarbures qui a fondu en peau de chagrin a servi à financer...
Par Monsieur Tebboune.
Si vous voulez... Alors, pour revenir maintenant sur la question de l'Algérie, l'armée algérienne, c'est la deuxième armée d'Afrique. Quand je disais que c'est le premier budget militaire.
Donc la première armée d'Afrique étant
l'Égypte.
L'Égypte. Alors est-ce que l'Égypte peut être un espèce de modèle rêvé par le régime, où on voit le maréchal président Sissi.
Mais d'une certaine manière, je reprendrai ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Filu, il y a une dichotomie qu'on faisait qui était les régimes autoritaires derrière la démocratie, et c'est vous aussi, Khadija, qui en faisait montre, et aujourd'hui on a un régime démocratique, un régime militaire direct, c'est-à-dire qu'on ressemble à l'Égypte du point de vue du caractère facial du pouvoir par l'armée depuis la divulgation directe, et la délégation directe du pouvoir sur Gaït Salah. Mais la seule différence entre l'armée algérienne et l'armée égyptienne, c'est que l'armée algérienne agit par délégation, tandis que l'armée égyptienne est directement et dans le pouvoir économique et dans le pouvoir politique. Ça, c'est la seule différence. Mais peut-être qu'on est en train de vivre une convergence. Rien ne nous dit qu'on ne va pas avoir des mouvements de nationalisation même, au sens où l'État va s'accaparer des actifs qui auraient été lâchés par les chronies, comme on dit, les copains du régime Bouteflika qui ont tous été arrêtés. On n'en a pas fini avec le concept de capitalisme de connivence. On le réplique sur de nouvelles bases. On avait un jeu de Mikado dans lequel le pouvoir Bouteflika et ses alliés de chefs d'entreprise d'une part et ses alliés militaires d'autre part ont joué l'immobilisme jusqu'au bout de manière autiste parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Comme dans un jeu mafieux, vous tirez un bâton du Mikado et tout s'écroule. Mais tout s'écroule pour recomposer de nouvelles alliances si on ne change pas le logiciel, comme vous disiez, si on ne change pas le régime. Donc, si vous voulez, du point de vue international, moi, il me semble que les forces, disons-le comme cela, hein, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, d'ailleurs, l'Égypte, Al-Sissi a félicité très chaleureusement.
C'est de la courtoisie.
Oui, mais donc il y a une sorte de ouf qui est crié comme ça par ces régimes qui ont tout à fait intérêt à contenir le mouvement. Mais encore une fois, quand vous regardez le processus qui préside à cette dynamique du mouvement, ça n'est pas tarissable, ça va recommencer. Donc, du point de vue géopolitique, les Algériens font très bien la distinction. C'est pour ça que le rôle de l'armée pourrait être un autre rôle si on faisait vraiment une république civile avec une armée qui est légitime aux frontières, assurer la sécurité, etc.
Les Algériens ne protestent pas. Aux frontières, et notamment, il faut le rappeler, aux frontières du Sud. Et ça, c'est évidemment observé très minutieusement par la France, parce que ce sont les frontières avec le Mali et le Niger.
Exactement.
Et qu'il ne faut pas oublier non plus que les chefs historiques de Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce sont des Algériens.
Et les Algériens reconnaissent parfaitement la légitimité de l'armée de conscrits, quand même. C'est une armée de conscrits, c'est une armée populaire. C'est pour ça qu'il y a eu, d'ailleurs Hawa Hawa, c'est-à-dire fraternité. Ce n'était pas pour rien, c'est parce que c'était des enfants des manifestants qui étaient de l'autre côté. Donc, vous avez une armée qui est reconnue dans sa légitimité d'assurer ce rôle historique de sécurité, avec la frontière tunisienne également. La frontière, la Tunisie, est sous la protection de l'armée algérienne, la Libye, etc. Donc, en fait, à la limite, les Algériens ne contestent pas la part du budget que reçoit l'armée pour assurer cette fonction de sécurité géopolitique internationale, et personne ne lui conteste. Ce que contestent les Algériens, c'est son rôle dans la politique et dans l'économique. Donc, là, il y a quelque chose de tout à fait important, il y a un clivage entre la Russie, la Chine qui est devenue le premier partenaire de l'Algérie, non pas en termes comme client, mais comme fournisseur de l'Algérie, en effet.
Et qui construit en particulier les routes.
Le premier client continuant à être la France. Donc, la Chine joue un rôle important. Les investissements directs étrangers qui viennent en Algérie, ils viennent dans le secteur des hydrocarbures. La loi des hydrocarbures a essayé d'étendre la possibilité d'exploiter davantage le pétrole par des sociétés étrangères. Donc ça a été, les manifestants ont rejeté cela, non pas parce que la loi est forcément mauvaise, mais parce qu'il y a un doute sur la légitimité de ce pouvoir, encore une fois. Les investissements directs étrangers qui viennent dans les secteurs qui permettent la diversification économique sont très faibles. Quand on regarde l'année 2018, on regarde les investissements directs étrangers qui sont venus, l'Algérie est l'un des derniers pays à avoir reçu des investissements directs. Et la situation politique, la volatilité des lois, tous les jours les lois changent, en d'autres termes on adapte les lois aux stratégies, aux intérêts des groupes, des cronies, des copains du pouvoir, et ceci, et aucun des candidats, quand vous regardez la... j'ai regardé les programmes, hein, même en dépit de la non-légitimité de cette élection, j'ai regardé quand même les programmes de Boone et compagnie. Il y a personne qui fait des propositions pour apurer, changer le droit et le stabiliser. C'est-à-dire, en fait, on dit, oui, on va faire une réforme financière, une réforme fiscale. De Boone dit, on va augmenter les salaires. Bon, voilà, des choses totalement...
Bon, mais on va voir. On va aussi, on va laisser à ce nouveau président le temps d'annoncer, j'imagine, une politique. Jean-Pierre Filliu, Faisal Metaoui nous disait d'entrée de jeu que donc le nouveau président algérien, Tebboune, s'en est pris directement au président français. Donc on sait que, pour les raisons historiques que l'on connaît, il y a une France officielle qui est toujours pétrifiée face à l'Algérie, pétrifiée par rapport à cette histoire commune qui reste tellement douloureuse et non soldée, pétrifiée aussi, il faut bien le dire, par le risque de chaos, l'idée d'un choc migratoire, que des Algériens, si tout à coup ce système s'effondre, choisissent de traverser la Méditerranée. Le président français, donc, depuis Bruxelles hier, a déclaré, je le cite, hein, « Je prends note de l'élection » et il appelle, je le cite toujours, avec respect et amitié au dialogue entre les autorités et la population. Mais ce soupçon d'ingérence, et ce sera en quelques mots la conclusion de cette émission, ce soupçon d'ingérence, il n'y a vraiment jamais moyen de...
Avec
de s'en débarrasser.
Jamais. Avec ce régime-là, jamais.
Et même avec la rue.
Non. Avec ce régime-là. Parce que ce régime n'a plus beaucoup de ressources. Et agiter l'épouvantail colonial, c'est une des rares choses qui savent faire. Gaït Salah en parle à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Hein. Mais sur la question migratoire, ne jamais oublier que le flux de Haraga, c'est-à-dire d'émigrants illégaux d'Algérie, s'est considérablement tari depuis le début du Khirak. C'est-à-dire que la contestation, la possibilité d'avoir un avenir enfin décent en Algérie, au contraire, permet d'enrayer cette migration illégale préoccupe et perturbe autant les décideurs européens. Ça, il faut pas l'oublier. Plus les Algériens auront un avenir décent dans leur pays, moins effectivement on risquera cela.
Eh bien, merci à tous. Merci à vous, Jean-Pierre Filliu. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions du Seuil « Algérie, la nouvelle indépendance ». Merci à vous, Khadija Mohsen Finan. Vous avez signé avec Pierre Vermeeren, aux éditions Belin, l'année dernière, un ouvrage intitulé « Dissident du Maghreb, Mouhoud ». Vous avez, vous, publié « Mondialisation et délocalisation des entreprises » à la découverte en 2017, et un ouvrage chez Fayard, « L'immigration en France, mythes et réalités ». Et j'ai lu un papier très intéressant que vous avez publié avec un programme, un plan sur une politique d'immigration que vous suggérez aux dirigeants français. Je remercie aussi Faisal Metaoui, Hamdam Mostafavi de Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Jacques Hubert. Hugo Boursier a préparé cette émission jusqu'à la dernière minute ce matin. Merci donc à tous et dans quelques instants, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end et à samedi prochain.